7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
Anastasie Tudiège.
Bonjour les voisines et les voisins. Un chiffre d'abord qui donne le tournis, 247 milliards. C'est le nombre d'emails échangés par jour dans le monde. Dans ce flux, combien sont indispensables puisque tout est devenu TTU, très très urgent. Aujourd'hui les voisins, nous allons parler d'un phénomène qui nous met tous dans le même panier, qui peut nous toucher tous momentanément ou durablement, hommes, femmes, seniors, ados, l'hyperconnectivité, ce besoin irrépressible, incontrôlable, ingérable d'être relié aux autres, au monde, via sa tablette, son smartphone ou son ordinateur, l'écran comme premier et ultime compagnon du lever au coucher. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passe et de ce qui se joue quand l'écran cesse d'être ce pourvoyeur formidablement utile d'informations et de liens pour devenir ce doudou urbain que nous emmenons absolument partout. Pour comprendre et analyser ce phénomène, deux invités avec nous ici à Issy-les-Moulineaux, au studio Catherine Lejal, bonjour.
Bonjour.
Sociologue, spécialiste du numérique et auteur d'un livre à paraître le 12 mars aux éditions Erol, J'arrête d'être hyper connecté, avec un beau point d'exclamation à la fin. Vous êtes également professeur à la PSB, Paris School of Business, et en duplex depuis Reims, grâce à France Bleu Champagne, Stéphane Dehoule, psychologue, bonjour.
Bonjour.
Spécialiste des addictions sans produit, des addictions comportementales, disons. Le numérique en fait donc partie. Vous connaissez le thème, les voisins, je vous ai présenté nos invités. Ne manque plus que vous. Quel connecté êtes-vous ? Raisonnable, addictif ? Comment comprenez-vous ce phénomène ? Signe des temps à accueillir comme tel ou dangereuse dérive à corriger ? Dites-nous tout au 33 1 84 22 71 71. Et vous avez commencé d'ailleurs à nous dire le fond de votre pensée via la page Facebook. Chloé, à Madagascar, nous dit par exemple « Moi, j'essaie de m'en détacher. Difficilement, je l'avoue, c'est chronophage, ça abîme les yeux. » Ça n'apporte pas forcément ce qu'on attend, ça nous coupe du monde réel au point de laisser brûler le repas sur le feu, c'est malsain. Où est l'intérêt d'avoir des nouvelles d'un ami qui vit à l'autre bout du monde, qui a mangé une pomme et qui s'empresse de l'écrire sur les réseaux sociaux, tandis que je ne regarde même pas ce qu'il mange à ma table avec qui je partage mon dîner. On y trouve tout et n'importe quoi, peut-être utilisé à bon escient, cela pourrait être bénéfique, mais comment ? Allez expliquer cela aux jeunes et aux moins jeunes qui ne savent même pas écrire « bonjour » correctement. C'est comme une drogue, on a besoin de se shooter un peu tous les jours. Néanmoins, la révolution ne se fera pas via les réseaux sociaux de Madagascar. Cap à Mopti, c'est au Mali, nous dit « Je suis connectée tous les jours à mon téléphone portable, c'est super cool, ça me permet de connaître les actualités dans le monde et de beaucoup discuter. Par contre, ça m'oblige à racheter du forfait tous les trois jours. Bon courage Cap. » Et puis Guillaume à Goma, en République démocratique du Congo, nous dit « Actuellement, l'hyperconnexion a de plus en plus refroidi les relations sociales. Avec une société Facebook et Twitterisée, les relations sont devenues plus virtuelles que palpables. On préfère chatter que rencontrer physiquement la personne, à quoi bon alors cette amitié ? C'est bizarre. » Continuez les voisins de nous donner vos impressions, que ce soit par la page Facebook ou bien que vous ayez envie de nous les donner directement au standard. Alors Catherine Lejal, pour parler de ce phénomène, une psychanalyste qui s'appelle Marie Peset parle d'envoûtement face au numérique et elle parle même d'hypnose collective. Des plus jeunes aux plus vieux, des nantis aux démunis, tout le monde peut être atteint, non ? Est-ce qu'il existe des différences selon les générations, selon les genres ?
Alors d'abord, effectivement, l'hypnose, elle se comprend bien parce que c'est un petit outil qui tient dans la main, oui, et qui nous donne tous les pouvoirs, qui nous donne la possibilité d'abolir les distances, de contracter le temps, de tout de suite appeler quelqu'un qui est loin et qui nous manque, de voir avoir l'information qui nous manque. Donc c'est vraiment quelque chose qui
est fascinant, qui peut facilement happer notre attention.
Complètement. Alors en France, on a des verrous qui malheureusement ont sauté, qui sont pas forcément encore, qui n'ont pas encore encore forcément sauté en Afrique, c'est qu'on a un réseau 4G parfaitement, qui capte partout. On a des forfaits pour 20 euros par mois qui nous donnent tout en illimité. Donc ça veut dire qu'on n'a plus du tout de raison de s'en priver. Ça, c'était des verrous protecteurs qu'on avait. Donc, effectivement, on observe des vraies différences de genre, d'abord, qui sont pas étonnantes, parce qu'en fait, le mobile transpose des modes de vie, des sociabilités, des réseaux qui étaient existants avant le mobile. Concrètement, la mère de famille qui a géré de la logistique, ça se transpose aussi sur le mobile. Déjà avec les téléphones fixes, la mère de famille était la standardiste qui répondait et qui faisait l'aiguillage.
Qui prenait les rendez-vous, voilà. Et gérait la vie de la maison.
Donc on voit déjà un usage où les femmes ont plus à gérer de l'utilitaire et les hommes vont peut-être plus chercher de l'information, du sport, des séries. Et puis après...
Oui, je vous en prie.
Il y a un clivage aussi par l'âge. C'est qu'on voit vraiment la génération Y, les trentenaires, ceux qui suivent juste après les Z, qui sont encore plus hyper connectés, donc dans des usages de partage, d'immédiateté, d'échange. Donc au contraire, de création de liens et qui sont encore plus à échanger sur plein d'autres modes avec les gens avec lesquels ils sont déjà pleins. On s'envoie des Snapchat alors qu'on vient de se quitter.
Les seniors ne sont pas épargnés.
Alors nous, en France, on a des seniors très, très connectés.
Alors les seniors français.
Très équipés, voilà. Mais c'est assez vrai, après tout dépend, voilà. C'est toujours des questions de prix. On a des mobiles pas très chers, on a des abonnements, des forfaits pas très chers. Et nos seniors sont très connectés parce qu'ils sont très motivés par pouvoir échanger avec leurs petits-enfants. Et on voit au contraire la grande motivation de recevoir à la fois des SMS, des MMS, des photos, de pouvoir échanger. Donc ça les motive. Et ils sont aussi très présents sur les sites d'achat. Donc ils font beaucoup d'achats en ligne.
Alors les mères de famille, leurs compagnons, les jeunes et les seniors, les ados n'en parlons pas.
Ah, les ados, ils se lèvent avec.
C'est ce qu'on appelle les digital natives. Ils sont nés avec le numérique. Ils sont nés dans le numérique.
Ils sont nés avec. Et pour eux, c'est un prolongement de la main. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vie hors du clavier, une vie. Mais c'est un outil de partage. Je vais te faire écouter un morceau de musique. Je vais te faire jouer à mon jeu en réseau. C'est vraiment quelque chose qui contribue à tisser le lien, en fait.
Tisser du lien, c'est aussi ce que nous faisons tous les jours, les voisins, au 33 1 84 22 71 71, quand vous nous appelez et partagez avec nous votre point de vue sur les émissions et sur les sujets que nous abordons. C'est le cas d'une voisine abidjanaise qui s'appelle Myriam. Bonjour Myriam. Mariam.
Bonjour. Bonjour Anastasia, bonjour à tous les voisins. Depuis que j'ai une tablette connectée 7 jours sur 7 à Internet, ma personnalité a changé. Ah. Je suis devenue une personne solitaire. Je ne trouve plus le besoin d'appeler mes amis puisque je les vois connectés via les réseaux sociaux. Mes amis me disent que j'ai une addiction, mais je n'y crois pas.
Merci pour votre témoignage. Nous allons demander à Stéphane De Houl, qui est psychologue et dont justement l'addiction est le champ de travail plus spécifiquement. Stéphane De Houl, est-ce que Mariam est addict ou pas? Devrait-elle consulter ou pas?
Alors déjà, elle nous appelle, c'est qu'elle se pose la question et qu'elle n'est pas opposée à l'idée de peut-être être dans une problématique
de se remettre un peu en question.
Utilisation. Voilà. Alors au niveau de l'addiction, il faut peut-être rappeler un petit peu ce qu'on entend par addiction, par usage problématique. Alors quel que soit le produit ou le comportement, puisqu'on peut avoir des addictions comportementales, c'est-à-dire sans produit. Déjà, bon, on va avoir un usage qui va être classique. Ça, c'est la première catégorie. C'est-à-dire un usage qui ne pose pas de problème, l'usage de monsieur, madame, tout le monde, on pourrait dire.
Donc là, ensuite, on n'est pas dans l'addiction du tout.
Non, c'est-à-dire que c'est quelque chose dont on peut se passer sans avoir de conséquences psychologiques ou autres, sans souffrance. Ça reste un plaisir, un moyen de se faire plaisir ou utilitaire. Ensuite, on peut parler d'usage nocif lorsque son usage peut commencer à présenter des usages à risque, l'usage à risque lorsque son usage est dangereux, alors soit pour sa psyché, soit pour sa santé, pour son travail scolaire, pour son travail tout court d'ailleurs, ou pour sa famille. Par exemple, si on prend un ado qui va avoir un examen le lendemain et qui va passer sa nuit sur League of Legends ou World of Warcraft sans réviser, par exemple, on peut estimer qu'il se met en danger et qu'il prend le risque de rater son examen. Mais le lendemain, il va quand même passer son examen et tout se passe bien. Donc là, il était juste dans un usage à risque. L'usage nocif, c'est lorsque là, on a des conséquences. Alors, les conséquences, elles peuvent apparaître au niveau familial, professionnel, psychologique, etc. Et enfin, la dernière catégorie, c'est la catégorie dépendance où là, On n'arrive plus à se séparer du comportement ou du produit. On a perdu cette liberté. C'est vraiment une notion importante. Et puis, on a une souffrance si on s'en sépare. On peut avoir des conséquences dans sa vie de tous les jours. Voilà, ça, c'est ce qui peut caractériser l'addiction.
Mariam ?
Oui ?
Vous vous reconnaissez dans laquelle de ces descriptions ?
La dernière.
Ah oui.
Vu que je n'arrive pas à me détacher du produit. Mais ça me fait du bien, je sais pas. C'est comme si c'était un ami, c'était quelque chose qui me permettait de rester en contact avec tous mes amis en même temps. Voilà. Donc c'est la dernière, je n'arrive pas à me détacher du produit. Je suis toujours avec ma tablette. Même quand je suis avec mes amis, j'ai toujours l'œil sur la tablette.
Voilà. Mais alors, ce qui est frappant, Mariam, c'est que non seulement vous ne parvenez pas à vous détacher, mais en plus, ça ne vous pose pas de problème, vous n'en souffrez pas.
Non, je n'en souffre pas du tout.
Stéphane De Houle.
Oui. Alors il y a l'entourage qui tire la sonnette d'alarme quand même,
oui,
pour Mariam par,
oui,
exemple, hein, qui dit attention, voilà. Après là on est. Ce qui pourrait être intéressant, c'est d'essayer malgré tout que l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que voilà, l'utilisation de la tablette, ça peut se faire. Alors si c'est compliqué pour Mariam de contrôler son temps et son utilisation, eh bien elle peut s'imposer de l'éteindre et puis de ne la sortir qu'à une certaine heure par exemple. Ou en tout cas de modifier ses comportements et de malgré tout aller voir ses amis en direct, enfin face à face, et de pouvoir mêler toutes ses activités. Ça peut être un premier pas pour voir un petit peu ce qu'il en est.
Voilà Mariam, gardez le plaisir et essayez au moins quelques minutes par jour de lever le pied ou la main sur votre smartphone.
C'est compris. Merci les voisins.
Merci beaucoup pour votre témoignage. Les voisins, faites comme Mariam. Appelez, le standard est là pour ça. 00331 84 22 71 71. Nous sommes toujours avec nos deux invités, Stéphane De Houle, que vous venez d'entendre, qui est psychologue et qui est à Reims, et Catherine Lejal, sociologue, avec nous en studio à Ici les Moulineaux. C'est la musique de Beat Assailant. Tout de suite, The City Never Sleeps.
Anytime. Somebody hold me down. Yeah. Now we good. Anytime. Yeah. The city never sleeps, it always keeps its eyes open. Got cameras by the millions, everywhere you go, you scoping. Hoping to catch you, wanna come up if you slipping. Those all up in your mission with that facial recognition. You tripping, thinking that you moving in discretion. Nobody stays anonymous in criminal professions. Didn't make moves under the cover of night. Now the whole gig got peeped out on satellite from outer space. 12 got the beat in your face. Set the crime task force to wake you up at your place. A rude awakening. Understand the point that I'm making is nobody here is racist. They'll be slapping on the braces. If you're making moves tenacious, you better use precaution. Cause forensic evidence can leave you laying in the coffin. Often, forget to dot the I's and cross the T's. You're negotiating pleas while you're facing felonies.
The city never sleeps. Anytime. Even after midnight, till the morning, daylight. The city never sleeps. Anytime. Every time you ride. City never sleeps, it's like we rolling dice in Vegas. Don't ask me what I gotta do to make these fucking wages. Working overnight, up in the morning. The only way to get ahead is hustle when they snoring. This is the land of freedom for some, but some of us can find a living out of life's in slums. Hard times will come whenever the day leave. You gotta move with speed to get exactly what you need. We bleed from our hands and weep from our eyes. Pursuing happiness can be the ultimate disguise. We sifting through the lies to find a modicum of truth. They got them singing lullabies, but not the kind to soothe the youth. You gotta swim hard or you're bound to drown. Nobody's ever tranquil in this twisted town. Gotta put on for the young players that run up. Hustle nonstop, can you realize the come up?
The city never sleeps anytime. Even after midnight, till the morning, daylight. The city never sleeps anytime. Every time you ride, I've always got an eye up. The city never sleeps anytime. Even after midnight, till the morning, daylight. The city never sleeps anytime.
Peter Salient, dans 7 milliards de voisins, The City Never Sleeps, l'hyperconnectivité quand tu nous tiens. C'est le sujet de notre rencontre et de nos échanges aujourd'hui, les voisins. Et avant la musique, nous étions avec Mariam qui nous parlait de son addiction à son smartphone. pour vous, Catherine Lejal, ça n'est pas nécessairement une mauvaise chose.
Alors, ça m'a pas paru forcément une addiction. D'abord, effectivement, comme le disait Stéphane, le fait qu'elle appelle et qu'elle se pose des questions. Mais parce que cette acquisition de tablette est relativement nouvelle, donc elle est dans l'enthousiasme de la découverte.
Et cette notion de nouveauté est très importante pour vous.
C'est très important parce qu'au départ, on a cet enthousiasme de tester toutes les fonctionnalités. Et puis, sur sa confiance en soi, sur son ego, ça booste de se dire, je maîtrise toutes ces fonctionnalités, je sais les découvrir. Quelque part, je fais partie des premiers, des innovants qui adoptent ces nouvelles technologies.
Et vous pariez sur le fait que le phénomène s'essouffle au bout de quelques temps.
Exactement. Et au bout d'un moment, c'est se dire, tiens, mais finalement, cette tablette, qu'est-ce que je peux en faire quand on est ensemble avec les amis? Est-ce que je peux faire 10 jockeys? Est-ce qu'on peut écouter de la musique pour danser ensemble? Est-ce qu'on peut tourner une petite vidéo ensemble? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Mais après, il y a vraiment ce régime de stabilisation.
Et combien de temps peuvent espérer, dans combien de temps les amis de Mariam peuvent espérer la récupérer, la retrouver comme avant?
Peut-être qu'eux aussi ont envie peut-être de voir ce que cette tablette peut leur apporter pour rencontrer d'autres personnes, pour répondre à finalement enrichir leur expérience quand ils sont ensemble.
Bon, alors ce sera à voir, espérons qu'ils nous entendent. Cap sur Conakry maintenant, où un voisin prénommé Bakar a lui aussi son témoignage à nous apporter. Bonjour Bakar.
Bonjour Anastasie.
Soyez le bienvenu Bakar.
Je voudrais dire qu'avec les nouvelles technologies...
Oui.
Plus précisément Google, l'élève ou l'étudiant est devenu de plus en plus paresseux, dans la mesure où, avec Google, l'étudiant noir comme moi ne se donne pas la peine de faire travailler sa tête. Par exemple, si on nous donne un sujet à traiter, on rentre sur Internet et on met juste le sujet et en un clic, tout ça sort. Et l'étudiant africain surtout ne retrouve rien, il ne cherche rien à comprendre, il recopie tout.
Ah, Je ne suis pas certaine que ce soit propre aux étudiants africains, Catherine Lejal.
Pas du tout, rassurez-vous.
C'est un grand classique et les professeurs ici en classe se plaignent souvent d'avoir à noter Google au lieu de noter leurs élèves.
Déjà, vous avez une bonne attitude qui est de recopier. Vous ne faites pas un copier-coller. Vous avez dit je recopie. Ça déjà, c'est un vrai travail parce que ça passe déjà par vous et
par
vous,
le corps.
Quelque part, voilà.
C'est transformé un peu. Stéphane Dehoul.
Alors oui, évidemment, ça c'est un phénomène qui est connu. Cependant, Internet reste quand même un outil assez extraordinaire si on adapte à sa façon de travailler.
On voit Mais bien, là, on typiquement, notre voisin parlait de paresse intellectuelle. Et effectivement, il suffit de rentrer 2-3 mots et on a développé par d'autres ce qu'on aurait pu mettre 2-3 jours, une semaine à chercher.
Ah oui, vous savez, c'est ni plus ni moins. Regardez, on prend un GPS, on entre sa destination dedans et on ne se fait pas du tout attention au chemin qu'on prend, on ne mémorise pas. Donc, il peut y avoir ce même phénomène avec cette facilité. Mais pour ceux qui ont malgré tout décidé d'aller plus loin et de gratter un petit peu, voilà, ça
c'est
reste
encore
un outil
possible.
Quand même. Bien sûr, et puis aujourd'hui, via par exemple YouTube, on va avoir des professeurs qui vont reprendre telle ou telle théorie, etc. Ça reste vraiment un plus si on sait l'utiliser.
Bakar ?
Oui.
Vous avez entendu nos deux invités, peut-être que vous pourriez aller au-delà de recopier et peut-être élargir votre réflexion. Qu'est-ce qui vous en empêche au fond ?
Mais ce que moi je voulais préciser aussi, c'est que ce phénomène-là aussi, parce que même ceux qui nous enseignent préparent leur cours et font du copier-coller sur Internet.
D'accord. Et donc il vous arrive de retrouver en cours des éléments que vous avez vus vous-même quelque temps auparavant.
Effectivement, avec beaucoup de chance aussi.
Mais vous, ça ne vous donne pas envie de creuser un peu plus, de profiter justement de cette manne d'informations pour aller plus loin que le simple sujet qui vous est apporté?
C'est pour ça que il y a deux étudiants, ceux qui vont loin et ceux qui s'arrêtent là où ils ont déjà trouvé. Moi, je suis parmi ceux qui s'arrêtent là où ils ont déjà trouvé.
Et pour quelle raison? Pourquoi vous ne creusez pas plus?
C'est le temps aussi. C'est le temps.
Mmh.
Et c'est le temps qui nous donne la paresse aussi.
Bon, mais écoutez, espérons que vous saurez aller au-delà de votre paresse, parce que du coup, vous vous empêchez d'avoir accès à beaucoup plus. Merci, en tout cas, pour votre témoignage, Bakar. L'hyperconnectivité, cette maladie du lien, un phénomène bien de notre époque. On en parle aujourd'hui, les voisins, avec nos invités, la sociologue Catherine Lejal et le psychologue Stéphane De Houle. Vos témoignages sont les bienvenus au 33 1 84 22 71 71. On parle tout à l'heure.
Mais... 7 milliards de voisins, on est ensemble.
7 milliards de voisins hyper connectés, workend, la capacité de travailler pendant le week-end, mobicuité, le fait d'être à plusieurs endroits et mobile en même temps, speed thinking, la capacité de réagir et de réfléchir très rapidement, des mots concepts qui disent un rapport déséquilibré au numérique, phénomène du troisième millénaire. Mais là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve, a écrit le poète et philosophe allemand Hölderlin. Un monde sans stress numérique est possible, les voisins. Et avec nos invités, c'est ce dont nous allons parler, entre autres sujets, pendant cette deuxième partie d'émission. Nous sommes toujours avec le psychologue Stéphane De Houle, en duplex avec nous depuis Reims, grâce à France Bleu Champagne, et avec la sociologue Catherine Lejal, en studio avec nous à Issy-les-Moulineaux, et toujours avec vous au 33 1 84 22 71 71. Catherine Lejal, Stéphane De Houle, il y a un aspect de l'utilisation intensive numérique que je voudrais qu'on aborde dans son clivage. Ce qu'on peut observer, c'est que selon les endroits du globe, et selon aussi l'exposition évidemment à un numérique plus ou moins efficace, les usages sont tout à fait différents entre les adolescents japonais qui en arrivent à se suicider enfermés chez eux parce qu'ils passent leur journée à jouer aux jeux vidéo, et l'utilisation qu'ont pu en faire les Tunisiens et les Égyptiens lors des soulèvements baptisés Printemps Arabe. Il y a un monde, des mondes, Stéphane De Houle.
Oui, en effet. Oui, tout à fait. Et on voit bien qu'il y a quelque chose de culturel dans la fonction et dans l'utilisation de ces nouveaux supports. Moi, je voulais revenir sur un aspect où vous disiez tout à l'heure dans la présentation, vous avez nommé ça le doudou. Et oui. C'est vrai que, bon, voilà, le doudou, qu'on appelle l'objet transitionnel chez les tout-petits, peut se transformer plus tard en espace transitionnel pour les adultes, les seniors, quel que soit l'âge, le sexe. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va nous rassurer malgré tout. Alors le doudou, c'est pour, là, on va dire, on va évoquer la séparation à la mère, mais là voilà, c'est l'espace transitionnel, c'est quelque chose qui peut nous rassurer, qui peut nous, on est accro au lien finalement plus qu'à l'objet, et ça c'est peut-être aussi quelque chose d'assez culturel chez nous en tout cas.
Catherine Lejal.
Alors, je dirais qu'on est accro aux deux choses.
À l'objet, comme...
À l'objet, oui.
À l'espace,
cette image de doudou, moi, c'est une des images que j'ai très vite adoptée, parce que c'est l'idée qu'on ne sait plus rester tout seul sans être occupé. Donc, il y a le lien, bien sûr, mais il y a des moments où on ne peut pas appeler, on est tout seul. Et on est un peu comme un enfant dans sa chambre, et on a un coffre à jouets qui est le portable, hein, qui part des notifications, il y a toujours des choses intéressantes, va nous relancer, nous stimuler. Donc, c'est tous ces mauvais usages où, finalement, on ne profite pas d'un petit temps de repos, d'un petit temps de répit, d'un temps de pour soi, d'un temps de respiration, où on va se surstimuler à partir de l'objet.
Parce que ce qui est assez fascinant avec le numérique, et notamment le téléphone, c'est qu'au fond, il est censé nous dégager du temps. Il est censé nous faire gagner du temps. On peut se faire livrer, on peut éviter de faire la queue au magasin, éviter de faire la queue à la bibliothèque, ne pas avoir de problème à ce qu'il manque un livre à la bibliothèque, puisqu'on peut l'avoir en ligne. Et finalement, ce temps gagné nous fait retourner dans cet espace virtuel.
Exactement, parce que ce temps gagné, qui est manifeste et qui est indéniable, on le réinvestit, on le réutilise dans l'objet, dans les nouvelles technologies. Avec tout ce qui est la fear of missing out, avec le fait d'avoir la peur de passer à côté de quelque chose, il faut avoir en tête ce chiffre qui est, depuis le début de sa création jusqu'à 2003, le monde a produit autant d'informations qu'il s'en produit aujourd'hui tous les deux jours. Donc il y aura toujours, on a l'impression qu'il y a toujours une nouvelle information qu'il est intéressant de voir. Donc il y a une curiosité, et ce temps finalement gagné, on le réinvestit à aller regarder, qui peut être lire des pages Wikipédia, hein, qui peut être chercher de l'information. Mais finalement, au lieu de se le garder pour se dire, ben, finalement, je vais me reposer, je vais respirer, je vais me détendre, je vais regarder autour de moi, Et je vais me remettre, moi, au centre du dispositif, c'est-à-dire m'offrir le luxe d'avoir du temps libre.
Stéphane Dehoul, comment accepter que cette vague est impossible à surfer, cette vague d'informations, on ne peut pas surfer dessus?
Ouais, c'est un travail de deuil finalement de se dire je ne peux pas avoir accès à tout. En tout cas, on voit bien que la notion de temps, on en parle beaucoup hein, déjà avec cet auditeur Bacar tout à l'heure qui nous disait ça prend du temps que d'étudier. Oui, ça prend du temps évidemment. Mmh. Et le problème c'est qu'on a cette illusion qu'on va en gagner d'une certaine façon, mais à la fin le résultat n'est pas probant. On est dans une société de l'instantanéité aussi où finalement on fonctionne beaucoup sur le tout tout de suite maintenant. Voilà. Donc c'est toujours compliqué de se dire oui, il faut prendre du temps et je ne pourrai pas accéder à tout et je vais devoir en laisser. Je dois faire ce deuil de laisser du contenu.
Une vie sans stress numérique, certains y parviennent 90 jours sans se connecter à Twitter, Facebook, Gmail, bref, à Internet. C'est le défi que s'est lancé un journaliste français, Pierre-Olivier Labbé. Un vrai sevrage pour celui qui se définit lui-même comme un « digital addict », en français, un accro au web. Et de cette cure de 3 mois, il a tiré un documentaire, « Digital Detox », diffusé ce soir sur la chaîne Canal+. Charlie Dupiot l'a rencontré chez lui alors qu'il venait tout juste de se reconnecter.
Bonjour.
Bonjour.
Alors là, on est dans l'appartement où vous habitez.
Exactement, et vous tombez plutôt pas mal, puisque j'étais sur Facebook, prise en flagrant délit de réutilisation de mes jouets que j'ai pas eu pendant 90 jours.
Alors là, dans le salon, on voit donc votre ordinateur.
Oui, mon téléphone, mon smartphone, qui est jamais très loin non plus.
Qu'est-ce que vous en avez fait pendant ces 3 mois?
Alors, les ordinateurs ont été confisqués, le smartphone bloqué dans un coffre-fort. Donc j'ai récupéré un vieux téléphone, en l'occurrence un vieux Nokia du début des années 90, sans accès à Internet, pas de mail. L'idée, c'était de se couper au maximum de tout. Moi, le premier geste en ouvrant les yeux, c'était d'ouvrir le smartphone, d'aller consulter mes mails, de faire un check rapide des réseaux sociaux pour savoir ce qui s'était passé dans la nuit au cas où. Et pareil avant de se coucher. C'est vrai que d'un seul coup, c'est des habitudes qui n'existent plus. Donc c'est là que c'est très agréable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tous ces moments d'inactivité totalement dédiés au smartphone, au réseau, au site d'info, enfin ce qu'on veut en tout cas sur Internet, d'un seul coup, c'est des moments qu'on récupère. Très vite, je me suis vu penser à des petites choses que j'avais entendues le matin, que j'avais envie de faire le lendemain, juste penser. Ce qui est fou dans l'utilisation d'Internet, c'est que c'est ultra insidieux. Si je vous dis je passe 4 heures par jour sur un réseau social, vous allez me dire, mais il est fou, comment il, en bossant et en ayant des enfants, il peut passer 4 heures par jour sur un réseau social? Ça paraît pas possible. C'est l'addition de plein de petits moments. Vous savez, en moyenne, chaque Français dégaine son smartphone 150 fois par jour, avec un temps d'utilisation moyen de 2 minutes. Vous faites le calcul et on y est. Il y a un autre constat, c'est que les réseaux sociaux, Facebook et Twitter pour ne citer que ceux-là, sont devenus des vraies plateformes de communication et même entre amis pour inviter quelqu'un à un anniversaire. Ce qui fait que d'un seul coup, vous faites plus partie de ça et que vous avez vraiment l'impression de tourner au ralenti dans un monde qui continue lui à tourner assez vite. Voilà. Et je sais que j'ai loupé énormément de choses. J'ai un exemple qui est la naissance du 3e enfant d'un vieux pote et qui, au moment de la naissance, a communiqué, en l'occurrence sur Facebook, pour dire que le divin enfant était arrivé. Donc ça a été amplement liké, commenté, surcommenté. Et moi, je suis passé complètement à travers de ça. Il n'a pas nécessairement pensé à m'envoyer un texto ou à me passer un petit coup de fil que à moi, voilà. Et je l'ai appris, je crois, 48 ou 72 heures plus tard, en croisant quelqu'un. Finalement, c'est pas si grave d'apprendre la naissance du fils d'un pote 3 jours après. Au début, ça angoisse en disant « je suis le seul à pas le savoir ah ». Et puis finalement, non. La maman m'en a absolument pas voulu et tout va bien.
Aujourd'hui, après cette expérience, vous avez réduit votre temps sur Internet, sur les réseaux sociaux ?
Réduit, j'en suis pas sûr. En tout cas, je fais différemment. Mon téléphone est éteint la nuit. Je ne l'ai pas en me couchant, donc je ne l'ai pas en me levant. Quand je suis avec mes enfants, quand je joue avec mes enfants, je suis avec mes enfants. Le téléphone, il est éteint, il est à l'autre bout de l'appart. Et s'il sonne, le message ou la notification, je l'aurai que quand j'aurai terminé de jouer avec mes enfants. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je ne faisais pas. Je jouais avec mes mômes le téléphone était dans la poche, si ça faisait bip, je regardais. Voilà. C'est moi qui aujourd'hui décide d'aller dans le téléphone quand je l'ai décidé. Je parle du smartphone et d'internet. C'est plus le téléphone qui vient à moi quand il sonne, quand il vibre et quand voilà. Et du coup, j'ai l'impression de beaucoup moins subir. Et je pense qu'on peut tous réfléchir à nos comportements numériques et que pour la première fois, dans la mesure où on a pris cette révolution numérique de façon assez puissante et ultra rapide en pleine face, je pense que pour la première fois, on commence à se poser et à regarder ce qui nous est arrivé.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Tous réfléchir, regarder, se poser, regarder ce qui nous est arrivé. Merci à Charlie Dupiot. Stéphane Dehoul, une première réaction après ce reportage?
Déjà, c'était un témoignage extrêmement intéressant.
N'est-ce pas?
Ouais, et on voit bien en tout cas que la notion de temps fait de nouveau partie du récit de cette personne quand il dit qu'il a l'impression que le monde tourne au ralenti et qu'il reprend le temps de vivre et qu'il a cette prise de conscience. Après, alors voilà, c'est une sorte de détox, hein, on pourrait un sevrage.
C'est le nom de son reportage.
Oui, bien sûr. Ouais. Donc, est-ce qu'il faut tester, en tout cas, peut-être pas sur 90 jours, mais de temps en temps, ce serait intéressant que tous, on se teste, on regarde un petit peu où on en est. Parce que on évoquait tout à l'heure, en début d'émission, une sorte d'hypnose collective. Et c'est vrai que, sans s'en rendre compte, on est tous dans cette utilisation qui est de plus en plus importante, qui est de plus en plus chronophage. Et du coup, ça peut être intéressant de temps en temps de se faire des pauses comme ça, des breaks.
Des moments off, des moments sans. Ouais, Catherine Lejal. Ouais.
Alors, même si j'aime pas la méthode de 90 jours sans, parce que je trouve ça un peu comme quelqu'un qui veut faire un régime et
c'est
qui dit
exactement
je mange rien.
Est-ce qu'on ne retombe pas après dans les mêmes travers?
Moi, j'adore le bon pain, j'adore le fromage, j'aime le chocolat, je m'en prive pas et je trouve qu'il faut plus passer sur. Par contre, les conclusions sont intéressantes, hein. Et finalement, ça, on arrive aux trois défis que je propose dans le livre, qui sont des défis familiaux à découper et à accrocher sur la porte de son réfrigérateur. C'est la première semaine de se dire, est-ce que je peux tenir 20 minutes sans mobile avant de me coucher? Est-ce que je peux limiter mes selfies? Est-ce que je peux me faire des journées des endroits où il y a effectivement des moments où j'ai pas de portable, un repas, un moment où effectivement je suis avec mon amoureux, où je joue avec les enfants. Donc des petites choses simples, plus tout ce qu'on a dans la sphère professionnelle, hein, qui est de pas traiter. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a pris conscience que c'est lui qui est responsable de traiter les interruptions, de regarder au fil de l'eau, au lieu de les mettre simplement de côté et de les regarder toutes les demi-heures.
Les voisins ont eux aussi envie de réagir et de vous poser peut-être leur question, Catherine Lejal et Monsieur Dehoul. Nous sommes avec Saïd à Moroni, c'est aux Comores. Bonjour Saïd.
Oui, bonjour Anastasie et bonjour aux éditeurs de RFI. Pour ma part, Internet, c'est un outil très important dans notre pays, dans le cadre où ça aide beaucoup de personnes pour leurs besoins personnels et surtout les étudiants comoriens qui en dépendent beaucoup. Et je peux vous témoigner ici qu'ils passent beaucoup de temps. Si vous allez dans un cyber, par exemple ici à Moroni où je me trouve, tu peux trouver que sur 10 personnes qui se trouvent dans un cyber, les 8 sont des étudiants de l'université des Comores. Les bibliothèques qui existent chez nous ici ne sont pas vraiment bien équipées car ils sont soit trop petits ou bien ils sont rares, surtout à Moroni, que dans une ville comme Moroni, on peut trouver deux grandes bibliothèques, mais qui ne sont pas du tout à la hauteur pour satisfaire les besoins des étudiants.
Donc à Moroni, on a le numérique utile.
Oui, d'accord, on voit le numérique utile, vous pouvez venir vous-même voir ce qui se passe ici dans la soirée, même si l'électricité est un peu perturbante, les cyber sont gonflés d'étudiants qui utilisent beaucoup l'outil.
Très bien.
Mais à ce qui me concerne personnellement, oui. Internet restera un instrument très important car ça m'aide beaucoup à préparer mes cours que je donne dans mon centre d'encadrement scolaire au niveau du primaire et collège, car j'ai beaucoup, beaucoup d'élèves dans mon centre, à peine 25 élèves que j'encadre tous les jours, et cela, Internet m'aide beaucoup, beaucoup à faire mes préparatifs car le temps ne me permet pas aller me fermer dans une chambre et faire des recherches de ce manuel qui date des années 90, que malgré tout, certains établissements utilisent jusqu'alors. Mmh. Et pour moi, Internet m'aide à me développer au niveau de la méthodologie et aussi à trouver des diversités sur les leçons auxquelles qui sont très importantes pour mes élèves.
Oui, c'est votre manuel géant finalement.
Oui, d'accord. Le manuel ici, c'est vraiment... Le manuel, ça coûte un peu cher dans le marché que d'aller sur Internet, par exemple. Aller sur Internet pendant 2 heures, c'était payé 1 euro et le livre peut vous coûter jusqu'à 20 euros. Donc,
bien sûr,
aller sur Internet.
Le calcul est très rapidement fait. Merci beaucoup, Saïd, pour votre témoignage.
D'accord. Je vous remercie aussi.
Et belle journée à vous. À
Moroni.
Un second voisin qui, non, pas un second voisin, qui peut-être reviendra, il s'était présenté. Et il est reparti. Alors, le sevrage comme thérapie, Catherine Lejal et Stéphane Dehoul, on en parlait, pas forcément une bonne chose, mais un pas de côté. Prendre de la distance, c'est bien aussi. L'idéal, Catherine Lejal, serait de ne pas avoir à se sevrer.
C'est d'avoir effectivement un moment à se poser quand même la question sur ses usages. Qu'est-ce qu'on fait qui finalement nous apporte rien, nous fait perdre du temps, et au contraire, refaire plus de choses qui nous font plaisir ou qui nous apportent du temps. Comme ce qui est central aussi bien dans la cure de désintoxication que dans le dernier témoignage, c'est que ça part de l'usager, c'est lui qui décide ce qu'il va faire. Il va chercher sur Internet l'information qui l'intéresse. Et là, on voit faire des MOOC, hein, des Massive Online Courses, des cours
des
en
cours
ligne.
Publics en
à
ligne,
partir du moment où ça vient de vous, c'est vous qui maîtrisez, c'est vous qui gérez votre temps, c'est forcément bénéfique. C'est revenir à se dire, en fait, je dois me respecter, je dois me remettre au centre de tout ça, et c'est moi qui dois gérer mon temps. On a une pyramide qu'on appelle d'Eisenhower, qui permet une matrice qui dit il y a les choses qui sont importantes, pas urgentes, et le mauvais usage du mobile et des nouvelles technologies et du mail, c'est de répondre finalement à ce que nous envoient les autres, qui sont pas forcément nos priorités, nos urgences.
Mais alors, donc, justement, pour paraphraser Alain Souchon, il faut voir comme on nous parle, on est des foules sentimentales, il faut dire aussi que les sollicitations sont très nombreuses et ne se présentent pas systématiquement comme de la publicité. Alors comment on fait ?
Non, mais par exemple, au travail, c'est de venir avec sa to-do list le matin, se dire, voilà les deux choses que je dois faire, et je ne répondrai aux sollicitations, sauf celles de votre chef, bien entendu, que quand, attention, c'est quand même ça que je dois faire, parce que c'est sur ça que je suis évaluée. Il y a des moments où je vais travailler pendant une demi-heure sans interruption, et ensuite, je traiterai au fil de l'eau les mails qui arrivent. Parce que la difficulté, elle vient de nous, c'est de résister à la petite sonnette, donc à la petite enveloppe, au petit bruit de ce qui arrive. Donc, c'est se dire... Maîtriser son temps, c'est un luxe. Et en 1899, on avait déjà un penseur, Veblen, qui disait finalement, la maîtrise de son temps, c'est les aristocrates peuvent se le payer, et c'est un facteur, un marqueur social. Donc se dire, je dois pouvoir penser à moi, me remettre au centre du dispositif, ça doit partir de finalement moi et pas me laisser embarquer dans des sollicitations d'autres personnes.
Stéphane Dehoul.
Oui, c'est les éditeurs, il y a la question des éditeurs par exemple de jeux vidéo ou des réseaux sociaux qui vont pour qui leur but est de nous faire nous connecter finalement le plus souvent et le plus longtemps possible. Hein, on voit bien que dans les MMORPG, on va vous rajouter des comptes
additionnels, MMORPG, c'est-à-dire
alors les jeux les jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs comme World of Warcraft, vous terminez une quête, on vous en donne tout de suite une autre, c'est-à-dire qu'on ne vous laisse pas de temps entre les deux par exemple pour vous garder un maximum de temps. On voit bien aussi que les réseaux sociaux, par exemple, vont vous envoyer des notifications, que de simples pastilles rouges sur l'écran du téléphone, il y a beaucoup de gens pour qui c'est vraiment compliqué de les laisser telles quelles. Vous voyez, il faut faire une sorte de nettoyage. Et puis, sur Twitter, par exemple, on voit aussi que les émissions télé, par exemple, vont beaucoup utiliser les réseaux comme Twitter pour que la personne se connecte durant l'émission et commente. Donc, c'est vraiment aussi on est appelé par tous ces médias en permanence, donc c'est très difficile aussi d'y résister.
Il y a aussi tous ces logiciels, il y a des logiciels pour tout, pour dormir, pour se détendre, pour apprendre des langues, et tous ces logiciels gratuits auxquels il faut faire attention, Catherine Lejal.
Alors il y a c'est un très bon sujet que vous abordez là, qui sont aussi les objets connectés et le big data. Il y a cette belle phrase qui est de dire si c'est gratuit, le produit, c'est vous. C'est-à-dire que tous ces logiciels, applications qui permettent de gérer son sommeil...
Une phrase à apprendre par cœur.
Ah, complètement.
Si c'est gratuit, le produit
c'est vous. C'est gratuit, mais ils le vendent derrière vos données. Et ils mettent en relation... plus ils arrivent à mettre en relation toutes les données de votre profil, plus votre profil sera qualifié et plus on arrivera à le vendre cher. Donc, c'est-à-dire toutes ces données de santé, de voitures connectées, de façon dont je conduis, elles sont renvoyées à nos assureurs. Et qu'est-ce que les gens vont en faire? Donc, se méfier, est-ce que c'est une vraie nécessité pour soi? Est-ce qu'on a des problèmes de santé? Oui, dans ce cas-là, oui. Mais sinon, attention, ces objets connectés...
Vous avez été, semble-t-il, bien entendu par une voisine qui s'appelle Muriel Ayaoundé, qui nous écrit par Facebook. J'ai décidé il y a une semaine de faire un sevrage de 40 jours de WhatsApp à l'occasion de carême parce que l'addiction était vraiment trop forte. C'est parfois difficile. Par exemple, dans le train, j'ai envie de cliquer, de me connecter, mais je me force à tenir et je ne le regrette pas parce que ça me permet de vivre normalement, de voir des gens, ma famille. Bravo Muriel. Tout de suite, pour dédicace à Muriel. La musique de Drake avec la complicité d'un chanteur anglais qui s'appelle Sampha, ça s'appelle Motion.
It's not me and you, it's not me and you. You're reckless and you know it, they don't love you like I do. Say you're moving on, well I guess that's just emotion. I guess that's just emotion. Oh, I guess that's just emotion. Oh, that's just emotion. I don't have a fuck to give. I've been moving state to state in my leather and my Timbs like it's 1998. And my dog Chubby Chub, that's my nigga from the way. On the east side of the city, that's where everybody stay. Seem like everybody calling cause they want me on their song. It's like every time I touch it, I can never do no wrong. When they need a favor from your man, they don't leave you alone. I guess that's just emotion. Yeah. Then that phone doesn't ring when they got everything. That's the motion. Oh, I guess that's just emotion. Oh, I guess that's just emotion. Yeah. Looking back on it, at least my pride is intact. Cause we said no strings attached and I still got tied up in that. Everything that I write is either for or about her. So I'm with her even when I'm here without her. And she know it, the girl that I wanna save is like a danger to my health. Try being with somebody that wanna be somebody else. I always thought she was perfect when she was being herself. Don't even know how to help, but I guess that's just emotion.
Une connexion anglo-canadienne, Drake et Sampha, The Motion, dans 7 milliards de voisins. Pour les quelques minutes qui nous restent, je vous propose, Catherine Lejal et Stéphane Dehoul, que vous nous qu'on aborde les aspects quand même positifs, les aspects pleinement positifs pas de l'hyperconnexion, mais d'une bonne connexion.
Exactement, il y a beaucoup d'usages qu'on sous-utilise parce qu'ils sont nouveaux, qui est la possibilité d'être connecté avec des gens, des voisins justement, qui peuvent nous rendre service, qui peuvent être un prêt, un échange, un troc de services, d'échange d'une décolleuse de papier peint contre quelque chose.
Alors, il y a des sites dédiés, mais ce que vous nous dites, c'est que ça, on l'utilise peut-être pas assez.
Parce qu'on n'y pense pas. Or, finalement, c'est se dire, tiens, mais qu'est-ce qui me ferait plaisir? Je vais aller au parc avec mes gamins, ça me ferait plaisir de rencontrer une autre maman. Donc, il y a les Digital Mom ou les, j'ai finalement trop cuisiné, avec qui je pourrais partager. Donc, il y a toutes ces choses très utilitaires autour
de la vie quotidienne.
Et puis, il y a ce qui est plus ludique et plus hédoniste, qui est de se dire, tiens, je ferais bien une partie de loup-garou avec des gens. Qui est-ce qui veut bien jouer avec moi? J'irais bien manger, tester cette nouvelle crêperie, qui viendra avec moi.
Et quand nous préparions cette émission, vous m'avez parlé d'un jeu de piste dans Paris.
Voilà. Alors moi j'ai fait un jeu de piste dans Paris il y a 15 jours justement sur des gens que j'ai trouvé qui étaient proposés par un bénévole qui organisait ça dans Paris et on s'est retrouvé à une vingtaine passionnés à courir dans Paris avec ces jeux de piste. Donc une mise en relation à travers plein de sites qui permettent de créer du lien avec des gens qui sont pas loin, qui sont voisins, mais dont on n'a pas l'information sur le fait qu'ils soient disponibles pour partager ces moments-là.
Stéphane Dehoul, j'imagine que vous êtes d'accord avec ce que dit Catherine Lejal. L'intérêt de la connexion, c'est quand ça permet de se connecter en vrai, de quitter la virtualité.
Je suis d'accord, oui et non. C'est-à-dire que c'est très intéressant pour, sur l'idée de rencontrer de nouvelles personnes, mais avant cela, il faut peut-être mettre le focus sur les relations que l'on a déjà aussi. C'est-à-dire que de ne pas les oublier totalement, de pouvoir aussi faire vivre ces relations. Je ne dis pas que c'est toujours intéressant de rencontrer l'aspect communautaire comme ça, des personnes qu'on ne connaît pas, mais c'est aussi reprendre contact déjà simplement avec son entourage, son cercle d'amis d'une autre façon. Et de ne pas se contenter d'un effet, on va dire, entre guillemets, cathartique hein, de ces réseaux. C'est-à-dire, je publie des choses et du coup, je me sens utile, mais ça me déresponsabilise, entre guillemets, si vous voulez.
De mon lieu de vie, oui.
Ouais, tout à fait. Et donc, c'est toujours voilà un équilibre, finalement, entre l'utilisation de ces médias qui sont des outils de communication formidables, mais aussi un retour aux sources sur l'idée de voir les gens, de faire des choses avec eux, et puis de rencontrer de nouvelles personnes, comme le disait Catherine.
Merci beaucoup, Stéphane De Houle. Je rappelle que vous êtes psychologue et que vous officiez à Reims. Vous recevez votre patientèle souffre le plus souvent de difficultés d'addiction sans produit, d'addiction comportementale. Catherine Lejal, votre livre « J'arrête d'être hyper connectée » sera disponible à partir du 12 mars aux éditions Erol. Merci également aux voisins qui nous ont fait la joie et la confiance de participer. Merci à l'équipe 7 milliards, Cécile Lavolo, Romain Dubrac, Jonas Mallet-Solart, Didier Chérouse. Merci à France Bleu Champagne pour le duplex. Demain, les voisins, on parlera de la Chine entre mythe bien ancré et réalité subtile avec Renaud de Spins, un journaliste indépendant basé en Chine et auteur du dictionnaire impertinent de la Chine, et également Gabriel Grésillon, journaliste et auteur de Chine, le grand bond dans le brouillard aux éditions Stock. Je vous souhaite une très belle journée à l'écoute des programmes de RFI. Sachez que cette émission, vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de RFI, www.rfi.fr. À demain.